La petite voix.
Joyeux Noël! Cette année, La Petite Voix s'associe à Mama Édition pour vous offrir un Noël tout en douceur, tout en spiritualité et surtout tout en livres. Chaque jour de la semaine, je lirai ici l'extrait d'un livre accompagné d'un petit mot de son auteur. Je suis ravie de vous proposer ces petits moments inspirants comme des respirations dans le tumulte qui précède souvent les fêtes. Cerise sur le gâteau, ou plutôt sapin sur la bûche, devrais-je dire, nous vous offrons chaque jour un exemplaire du livre présenté. Pour cela, c'est simple, rendez-vous sur Instagram et Facebook, vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. La Petite Voix fête Noël, c'est parti! Je suis particulièrement contente de vous présenter aujourd'hui un extrait de Ma peau d'un autre monde de Vanessa Escalante. Elle nous emmène en Australie, sur la trace de la culture aborigène. L'Australie tient une place toute particulière dans mon histoire et lorsque j'étais sur place, j'étais très curieuse et fascinée par cette culture qui me semblait si riche, mais aussi très secrète. Merci donc à Vanessa, qui par ailleurs est cinéaste et documentariste, de nous initier à cette culture aborigène, la plus ancienne culture vivante au monde. Leslie ne sait pas encore ce qui se trame pour lui. Il a débarqué pour un soi-disant pique-nique sur le terrain de jeu du diable. Les hommes font mine d'être là pour se détendre. Je filme la scène sans en perdre une miette. Peu à peu, Leslie constate un comportement étrange chez ses cousins. Quelque chose d'anormal se trame, son regard s'obscurcit. Il a l'air de se demander « Pourquoi DJ s'attache des bandes rouges aux bras ?» Et pourquoi Djupurula se peint le torse du kangourou ancestral? David se fait grave, lui qui d'habitude est un vrai pince sans rire. Il se met à chanter le chant de la rivière Starkai, sa terre natale, c'est-à-dire ici. David est le big boss des lieux. Djupurula se met à frapper son boomerang plusieurs fois sur le sol et chante le chant du kangourou. La vibration de sa voix me plonge lentement dans une transe. Leslie est de plus en plus mal à l'aise. Il se met à faire des allées et venues. Je ne le quitte pas du viseur. Vanessa, tu dois partir maintenant, m'impose Djupurula. Dans la précipitation, je laisse mon microfilaire sur place. Je continue d'écouter à distance ce qui se dit sur le terrain. Malgré les grésillements, à mesure que je m'éloigne, une dernière phrase me parvient. « Tout le monde enlève son pantalon. » Les hommes sont maintenant nus. « Montre-nous si tu es un homme. » J'entends Leslie se rebeller, mais les hommes le forcent à s'allonger par terre. Pudiquement, je cesse d'écouter. Le lendemain, toute pression est retombée. Les hommes enseigne à Leslie les danses qu'il doit connaître. Les enchaînements lui sont montrés comme les aborigènes l'ont toujours fait depuis la nuit des temps. Cela suffit pour que Leslie s'en souvienne. Grâce à ce savoir, il peut maintenant témoigner qu'il est un homme initié. La danse principale est celle des longs bâtons. DJ la présente en premier. Deux longues tiges de feuilles sont accrochées des deux côtés de son corps avec de la laine. Ces bâtons représentent le peuple des étoiles, ancêtres venus du cosmos pour apporter certains savoirs. Djupurula me dit que le peuple des étoiles serait arrivé sur Terre sous la forme de bâtons qui tremblaient dans les airs. DJ se met à sauter les pieds joints, avançant en zigzag et faisant trembler le feuillage. Il s'arrête, face caméra, pour se laisser choir en arrière dans les bras de Stanton, caché derrière lui. Après la pratique des danses des petits bâtons et du bouclier, Lance et DJ se font des scarifications au bras avec un silex. Cela fait également partie de l'enseignement de Leslie. La scarification est un langage de beauté inscrit dans le corps des initiés. Les marques diffèrent selon les tribus. Elles racontent le courage et la force de celui qui les porte. La douleur permet peut-être aussi une forme de transe qui les rapproche du temps du rêve. L'initiation de Leslie devrait durer plusieurs semaines dans le bush, mais elle est réduite à 2 jours. Les 5 compagnons ont des priorités familiales et n'ont pas la capacité physique de se maintenir en survie dans la nature comme autrefois. Dorénavant, Leslie doit se tenir loin de sa femme pour guérir. Le tournage de cette séquence me permet de souffler un peu. J'ai un bon quart d'heure de film. J'ai aussi besoin de couper avec le monde extérieur. Djupurula commence depuis quelques jours à m'oppresser. Il devient de plus en plus ténébreux. Il me parle des putidji, des esprits qui enlèvent les femmes. Je n'aime pas l'ambiance qu'il crée. Il me demande de me préparer à une nouvelle séquence. En tant que guérisseur, il a le Mungan, le pouvoir. Et comme tout pouvoir, c'est la façon dont il est utilisé qui fait d'une personne un guérisseur ou un sorcier. Djupurula m'amène, peu à peu, sur le chemin que je crains le plus, la sorcellerie. À demi-mot, il me parle du business des hommes traditionnels. Je comprends qu'il s'agit d'utiliser les forces occultes. Il me confie qu'il veut enseigner à ses hommes comment tuer à distance et il veut que je filme. Je ne comprends plus à qui j'ai affaire. Je lui donne mon avis. Je ne veux pas avoir affaire avec la magie noire, ni de près, ni de loin. Djupurula m'explique que le business des sorciers est de savoir manier la magie blanche et noire. Je n'ai pas à juger de ça. C'est avec l'occultisme qu'il va renforcer l'esprit de ses hommes. Je trouve cela hors contexte. Je pensais que seuls les sorciers qui sont passés par une vraie initiation, comme celle que tu as reçue dans ta jeunesse, ont le droit d'utiliser la magie. Djupurula me gratifie d'un « regarde et apprends ». Ceux qui sont destinés à devenir guérisseurs ou sorciers sont reconnus dès l'enfance. Ils sont choisis pour leur pouvoir. Ils suivent un enseignement initiatique précis. On les appelle les Kuraji, pieds de plume. Certains font le choix de la sorcellerie et peuvent être mandatés pour des vendettas au sein de communautés. Ils règlent des contrats. Ils agissent de nuit en portant des chaussons en plumes d'émeu pour ne pas laisser d'empreintes dans le sable. La rumeur de la présence des Kuraji dans une communauté terrifie tout le monde. Djupurula semble ne pas apprécier que je donne mon avis, tout comme les femmes aborigènes qui s'opposent de plus en plus aujourd'hui à la sorcellerie. Sans me sentir un quelconque droit d'ingérence dans les cultures aborigènes, cet événement m'aide à prendre une position à l'intérieur de moi, celle de ne m'engager que dans l'utilisation des forces universelles spirituelles porteuses de paix. Djupurula a réuni ses hommes devant chez Stanton. Il est ferme et veut que je filme. J'ai préparé la caméra et je fais une prière pour recevoir une aide divine. Au moment où Djupurula révèle à ses hommes le chant de la mort, un voisin allume sa radio à fond. Je l'interromps pour lui expliquer qu'avec cette musique de fond, les images seront inutilisables. Djupurula se fiche de ce que je dis et poursuit son enseignement. Un second voisin allume sa tondeuse et un troisième met en route une perceuse électrique. Cette cacophonie est venue à ma rescousse. Vanessa, quelle petite voix vous a soufflé d'écrire ce livre ?
Plus qu'une voix, c'est une espèce d'énergie sacrée, de force qui est venue me chercher. Après 10 années d'expérience et d'immersion en terre aborigène d'Australie, pendant le confinement, j'ai reçu cette espèce d'énergie venue de d'on ne sait où, de la sphère du temps du rêve, et qui m'a vraiment mise dans cette puissance d'écriture. Et pendant 6 mois non-stop, je me suis immergée dans le récit de mes aventures australiennes. Bien que j'avais des souvenirs enfouis que j'avais pas envie de revivre, j'ai réussi à les remettre sur le papier. Et surtout, ce qui est important pour moi à travers ce livre, c'était de laisser une trace, une vibration, une énergie d'amour que j'ai toujours eue pour la nature et pour l'environnement et pour les peuples autochtones. Et je voulais vraiment laisser cette empreinte à travers les mots de qu'est-ce que c'est que le rapport à la nature, le rapport à l'autre. Qu'est-ce que c'est que d'être en lien profond, mais total. Je veux dire, moi, pour accéder à la culture aborigène, je me suis complètement déconditionnée, déformatée de ma conscience occidentale. Donc j'ai dû vraiment faire une mue, enlever une peau pour me mettre dans la peau de l'autre, pour comprendre leur vision du monde. Et donc j'ai pu retrouver, grâce à cette culture, le lien avec le sacré, le lien avec l'espace-temps du rêve.
La petite voix fête Noël, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel extrait. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Merci beaucoup et à demain pour la suite de La Petite Voix fête Noël.